France Culture.
À voix nue, Ulysse Manès.
Georges Nival, écrivain slavisant.
Épisode 5, l'âge, le voyage et les héritages. Bonjour Georges Nival.
Bonjour.
Nous voilà déjà au dernier épisode de notre discussion. Hier, vous nous parliez du monde universitaire, de la religion entre orthodoxie et protestantisme, de vos méthodes de travail, de votre compagne Lucille. Aujourd'hui, pourriez-vous vous livrer à un petit exercice de bilan avant d'évoquer vos futurs projets? J'ai proposé d'intituler ce dernier chapitre « L'âge, le voyage et les héritages ». Est-ce que vous vous sentez nostalgique ou en paix avec le présent?
Avec mon présent, oui. Avec le présent, plus généralement, non. Surtout celui qui m'importe, c'est-à-dire notre pays, la France, la Russie et la Terre Sainte. Donc, je ne sais pas. En revanche, je suis en parfaite, paix avec mon âge.
En quelques mots, est-ce que vous avez des fiertés ?
Fiertés, pas particulièrement. Si vous voulez, d'avoir suivi un sillon, mais avec beaucoup d'amis, beaucoup de distractions, beaucoup d'excursions, d'excursus à droite, à gauche, en Amérique, au Japon, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, et naturellement en Grande-Bretagne, en Catalogne, à Berlin. Ça a immensément enrichi ma vie, sans que je quitte, je pense, cette idée dirigeante qui m'a dirigé, qui est d'essayer de comprendre la Russie. Et par la Russie, d'essayer de comprendre le monde, parce que faut pas trop embrasser. En embrassant la Russie, on embrasse une partie assez convaincante du monde.
En quelques mots encore, est-ce que vous avez des regrets ?
Ah, j'en ai beaucoup, bien entendu, qui n'a pas de regrets. Il y a des langues que j'aimerais avoir appris de façon plus sérieuse, parce que la découverte d'une langue, c'est un véritable amour, quelle que soit cette langue. Et dire qu'on préfère une langue est quelque chose qui, comment vous dire, m'irrite légèrement, parce que il me semble que, de même que, voilà, Lévinas nous a montré que les visages sont tous, irréversibles, inchangeables, immodifiables. Nous avons chacun un visage qui représente l'absolu. Si on est chrétien, on ajoutera qui est à l'image de Dieu, bien que beaucoup retournent cette formule en disant « Oui, votre Dieu, il est fait à votre image. » Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort. C'est les deux ensemble. Dieu étant la figure commune de ce qui ne peut pas avoir de figure commune, ce qui est impossible de généraliser, qui se trouve généralisé dans cette idée d'un Dieu qui est en chacun, comme une langue de feu.
Vous voyez, je vous pose une question sur vos regrets, vous finissez par nous parler de Dieu.
Oui. Non, voilà, j'aurais aimé être un peu davantage alpiniste, je l'ai été, mais un peu plus. J'ai quand même fait quelques sorties avec des guides pour des escalades qui dépassaient largement mes capacités. Et sentir qu'on est en dehors de ses capacités est aussi quelque chose d'étonnant, d'important, qui donne une frayeur et une jouissance en même temps.
Alors justement, quelles sont vos grandes joies actuelles ?
Bon, j'aime beaucoup écouter des concerts. J'ai écouté récemment Saint-François d'Assise, par mission, ça laisse une trace. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les films, j'aime bien voir ou revoir des films. Et alors là, je ne peux que parler aussi un petit peu de mes amitiés avec des metteurs en scène ou des acteurs. Des acteurs polonais, j'ai connu les plus grands acteurs polonais. Des acteurs russes, j'étais très ami avec Serge Yurski, dont la gloire était en URSS et ensuite en Russie jusqu'à sa mort. Immense, immense, c'est-à-dire je pense qu'il n'y avait pas un Russe qui ne le connaisse pas, d'un bout à l'autre de cet immense pays. Et lui-même, bon, il était aussi assez plaisantin. Par exemple, il a fait un film dans lequel il a affublé une garde, une petite gare de Moscou, de la grande ceinture de Moscou, du nom de mon village, Ezri. Ah ouais. Donc, très peu de gens, j'imagine, ont remarqué ça. Ou bien là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas russe, non. Voilà, ça c'était Yurski, j'aime beaucoup tout ce qu'il a. Et il écrivait des romans aussi, des romans, des poèmes. Et puis Alexandre Sokourov, le metteur en scène. Alors lui, je pense, c'est un très grand génie du visuel. Il y a eu plusieurs, enfin quand même, festivals ou semaines consacrées à Sokourov. Moi, j'en ai organisé. J'en ai organisé un une fois où il n'a pas pu venir. Il était aveugle, il a des problèmes d'yeux. À ce moment-là, il était entièrement aveugle. Il était dans un lit, un hôpital à Saint-Pétersbourg. On a réussi à établir une sorte de liaison radio. Alors, ça a été un moment tout à fait extraordinaire de liaison avec lui. Voix chuchotée, par exemple, ou bien sa trilogie sur le pouvoir, qui est devenue une tétralogie. Ça commence par Hitler, Lénine, Hirohito, et ça se termine par une sorte de synthèse qui est le Dr Faust. Dr Faustus qui a voulu avoir tous les pouvoirs. Mais son Hitler, qui se passe dans les montagnes, est quelque chose d'extrêmement minéral, vous voyez, où les hommes deviennent presque comme des pierres. Son Lénine se passe davantage dans les champs, dans les blés qui sont très hauts, déjà, 1m50, dans lequel s'affale. Lénine, accompagné par sa femme, Lénine qui est déjà presque hémiplégique. Et puis Hirohito, lui, c'est face au général MacArthur qui a pris la main sur le Japon, qui est le vainqueur, et Hirohito qui représente une monarchie de 2000 ans et qui est tout timide. Ne sait pas comment se comporter face à ce général américain qui ne connaît aucun des usages, naturellement. Et puis enfin, le Dr Faustus, revécu par Sokourov. Et là, c'est également assez extraordinaire. Son dernier film, je crois qu'il n'est même pas passé ici, ça s'appelle « Le conte de fées ». Et à l'entrée du paradis, mais ils sont encore en enfer, vous avez Staline, Mussolini, Hitler, Winston Churchill, et la porte qui s'entrouvre de temps à autre, on aperçoit un petit personnage qui leur dit non, c'est pas encore le moment. Et chaque personnage apparaît en changeant d'âge. Il n'y a pas de continuité dans biologique. Alors c'est un conte, et il s'agit de savoir ce que ça veut dire.
Quelles sont les grandes choses ou les grands moments qui vous ont emporté ?
La libération, dont j'ai déjà parlé. La libération, ça c'est inoubliable, en 1944-1945. Mon expulsion de la Russie soviétique, inoubliable aussi. La mort de mon frère, le mathématicien, Maurice, que j'ai vu agonir et mourir. Et je pense que c'est la seule agonie que j'ai vue. Et puis c'était mon frère. Plus personne ne me connaissait comme ce frère qui avait 3 ans de moins. Et puis en plus, les choses étaient comme inversées. Il partait avant moi, alors que l'ordre naturel aurait été plutôt l'inverse. Voilà, ce sont de très, très grands moments, naturellement aussi, les naissances des enfants, la naissance de mon fils, d'autant plus que là, le gynécologue m'avait autorisé à être là. Donc j'ai vu naître mon fils. Pour ma fille, le gynécologue avait interdit. C'était un juif croyant qui disait « le père n'a pas le droit d'être là ».
Est-ce que vous vous êtes ennuyé dans votre vie ?
Je ne suis jamais arrivé à m'ennuyer. Jamais réussi ça.
Quelle est votre géographie ? Vous l'avez déjà un peu effleurée tout à l'heure en évoquant ses voyages au Brésil, en Chine, au Japon, à Jérusalem. Mais votre géographie, les endroits du monde qui ont été importants pour vous ?
Bah écoutez, Jérusalem, c'est évidemment très impressionnant. Mais être dans la tour où il y a eu le dernier repas. Pendant l'intifada, je suis allé au Saint-Sépulcre hein, et il n'y avait plus personne. Un endroit où en général on se bouscule, où il y a une foule, où pour entrer dans le Saint-Sépulcre on fait la queue, on vous pousse, on vous laisse 30 secondes et puis vous sortez. J'y suis resté seul 2 heures. Il n'y avait personne, strictement personne dans ce conglomérat d'églises qui coiffe le Saint-Sépulcre. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait un jeune couple qui se promenait. Je les ai abordés. On est allé prendre un café ensemble. C'était un jeune couple belge. On était 3. Mais vous savez, tout à l'heure je parlais de Sokurov. Quand j'ai vu le premier film de Sokurov dans un cinéma à Paris, où passaient généralement les films soviétiques, La Pagode, on était très peu. Au bout d'un certain temps, les très peu sont partis, et il en est resté 5 ou 6 parce que les gens ne supportaient pas. Vous voyez, c'était le début, je crois, de paroles chuchotées. Enfin, 45 minutes avec les leaders des enfants morts de Mahler, il ne se passait rien. Et puis, à la 44e minute, il y avait un petit personnage en bas, à la lisière du bois, qui apparaissait. C'était la première partie. Et là aussi, les 5 ou 6 qui sont restés, on est allés au café ensemble. Parce que nous, on était subjugués. Ça, c'est des moments inoubliables.
Je vais vous donner une citation d'un penseur colombien qui s'appelle Nicolas Gomez d'Avila. Et il a écrit « Une âme cultivée, c'est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. » En ce qui vous concerne, qui sont vos grands fantômes ?
D'abord, les fantômes, je n'ai pas de fantômes. Peut-être en rêve, oui, quand même, j'ai eu des fantômes. Comment vous dire ? Il est vrai que nous vivons avec beaucoup de morts. Vous vous rappelez qu'à l'école normale supérieure, il y a cette formule l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. C'est des formules difficiles à comprendre. Naturellement, il y a énormément de monde à qui nous devons. Cet Homère aveugle qui a écrit les deux chants épiques qui sont au début de ce que nous sommes, en particulier la guerre. On ne peut pas songer à la guerre sans songer à l'Iliade, la guerre de Troie, qu'elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu. Elle continue, elle a toujours lieu. Avec ce poème de la cruauté dont Simone Veil a parlé très justement. La cruauté est extraordinaire dans l'Iliade. Achille est cruel. Le cadavre, les cadavres tirés par les chevaux, c'est une telle insulte à l'humanité. À l'humanité même du corps mort, du corps qui a quitté la vie, dont l'âme est partie. Je pense que, malheureusement, nous ne vivons avec plus assez de morts aujourd'hui. J'ai comme l'impression d'une jeunesse contemporaine qui n'a plus tellement de morts derrière soi. Et cela, comment dire, fait une sorte de déracinement. En revanche, elle a des quantités de personnages fantastiques et monstrueux autour de lui, que ce soit avec Harry Potter ou des films d'horreur où il y en a 13 à la douzaine. Et personnellement, je me demande pourquoi. Pourquoi ce besoin d'horreur ? Pourquoi ce besoin de terreur ? Le fantastique, je l'aime, mais la terreur, je ne l'aime pas. Le fantastique d'Edgar Allan Poe, oui, ça c'est... C'est-à-dire le réel, mais légèrement décalé, qui vous fait sentir que... Qu'est-ce que le réel ? Il suffit de bouger un tout petit peu et ça n'est plus le réel. Eh bien, effectivement, c'est comme ça. Mais... Ces armées apocalyptiques, comme on dit, entre mille guillemets, de terreur, j'ai du mal à les comprendre. Et je pense que c'est parce que il manque une troisième personne, une troisième présence, une présence divine. On peut l'appeler d'un autre nom, mais... Moi, je ne suis moi que si j'ai autrui en face, même si autrui ne veut pas de moi, s'il me refuse, s'il refuse la main que je tends, s'il ne répond pas à ma question, ou s'il m'injurie. Mais néanmoins, cet autrui, il est nécessaire.
Et même s'il vient des brumes du passé, justement.
Eh bien, on dit tertium non datur, mais moi je pense qu'il faut un troisième élément. Appelons-le comme on veut. Appelons-le, là je suis en train de lire un philosophe, il l'appelle le Christ, il construit toute une métaphysique l'incarnation. Tout en se rendant compte, évidemment, qu'il construit quelque chose sur un élément de foi qui vient de ce Jésus-Christ.
C'est ce qu'on appelait aussi, chez les Grecs et les Latins, le nombre intermédiaire.
Oui.
C'est ça. Mais je reviens à la question que je vous ai posée sur les fantômes. Alors, je reformule, en disant fantômes, je pensais aussi aux grands amis qui vous accompagnent, même s'ils ne sont plus là, notamment Sarah Kaufman... Et sa tragique disparition, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Bon, j'ai connu, et mon épouse Lucille également, Sarah à Toulouse. Nous étions tous nommés jeunes profs à Toulouse. Sarah, immédiatement, a produit sur moi une impression énorme. Elle a écrit une trentaine de livres. Elle les écrivait avec l'unique objet qu'elle avait reçu de son père, gardé de son père, parce qu'il lui avait donné un stylo. Son père a disparu à Auschwitz. Son père avait été averti par un policier parisien, monsieur le rabbin, quittez tout de suite votre maison, un policier courageux qui lui a annoncé la rafle qu'il allait y avoir le lendemain. Alors il a fait partir ses deux fils d'un côté, sa femme et sa fille Sarah de l'autre, et lui est resté assis sur une chaise. Il a été pris et la suite était implacable. Quant à Sarah, elle est allée chez une... Elle a emmené sa mère chez une femme qui était danseuse de French Cancan, catholique, et qui lui avait donné bonbons, l'avait emmenée chez elle. Et alors, bien que ce soit la nuit, qu'il y avait le couvre-feu, ils sont allés sonner, et cette femme les a recueillis pendant 2 ans et demi. Et elle a écrit cela dans un livre... qui donne les deux noms des rues, rue ordinaire, rue là-bas, que j'ai fait traduire en russe d'ailleurs. C'est Simon Markish, le fils du poète juif Peretz Markish, qui l'a traduit. Étrangement, ce livre extraordinaire a eu peu d'impact. Mais Sarah a eu peu d'impact. Elle a écrit des livres sur l'enfance de l'art, sur Nietzsche, sur Freud, avec un point de vue qui était toujours le sien, extrêmement nouveau et complètement décalé, encouragé par Derrida et par d'autres, mais comme si on lui imposait une sorte de plafond. Ce fameux plafond là, dont on parle dans les élections américaines concernant les femmes, comme si cette femme philosophe était un petit peu un rajout. Et bon, elle s'est suicidée, elle a été suicidaire pendant très longtemps, elle avait un compagnon grec que j'aimais bien, Alexandre, qui a tout fait pour essayer de la sauver, qui n'y est pas arrivé. Tout simplement parce que la semence de mort qu'il y avait en elle ne pouvait pas disparaître. Il y a aujourd'hui, je sais, des philosophes en Amérique qui étudient Sarah Kaufman plus qu'en France. Alors, bon, il y a Sarah, je ne parle pas des suicides parce que j'en ai vu plus d'une vingtaine. Le suicide est une affaire de dénombrement. Combien a-t-il de suicides? C'est Durkheim qui nous a appris à raisonner comme ça. Moi, j'en ai vu quand même proportionnellement énormément. Et des suicides terribles. Et le tout dernier, l'an dernier. Il y a là aussi quelque chose qui fait que il n'y a pas de réponse. On demande à la philosophie des réponses. Peut-être faut aller chercher du côté de Kierkegaard, le philosophe existentialiste, mais en général, il y a peu de réponses. Moi, j'ai bien aimé Descartes, on le lisait au lycée, on me l'a donné comme prix quand j'étais le prix de philosophie. J'aime bien sa correspondance. Ses lettres. J'aime bien un roman de Marc Aldanoff de l'émigration russe qui s'appelle La rue d'Ulm et qui insiste sur le fait que Descartes a eu une vision de ce qu'allait être sa philosophie.
Georges Niva, pour essayer de ne pas finir sur une note trop crépusculaire sur la question du suicide, j'aimerais vous poser encore une question. Vous vous définissez vous-même, en tout cas c'est ce que vous m'avez écrit dans une lettre, comme un nonagénaire bien dans sa peau. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que ça signifie?
Ça signifie d'aimer le lever du jour, d'aimer cette planète dont nous savons bien qu'elle a une vie, c'est-à-dire un début, une fin. Simplement, ça nous dépasse immensément. Mais avec l'armement atomique, évidemment, nous devons être à tout instant conscients que cette fin peut arriver demain. demain matin ou dans la nuit. C'est une chose qui est possible scientifiquement et qui dépend du vouloir, du non-vouloir, de la capacité à décider d'un certain nombre d'hommes. On peut dire qu'il en a toujours été ainsi, sauf que ce danger planétaire n'existait pas et qu'il existe aujourd'hui. Donc, se lever, voir le lever du jour, ah, encore un dans ma vie, mais encore un pour cette Terre, pour la planète, pour les enfants. Et puis, vous voyez, en vieillissant, on aime beaucoup, davantage, je crois, regarder les enfants. Moi, j'ai regardé mes petits-enfants plus que mes enfants. Parce que les enfants, bon, on est très pris, on travaille, on s'occupe d'eux, il faut les amener ici, là, on les charrie d'un endroit à un autre. Mais maintenant, les enfants des autres. Et je comprends très bien ces vieilles personnes qui restent dans un square et qui regardent les enfants jouer. Il y a quelque chose qui est la transmission de la joie, de la vie et la beauté du monde. Une beauté fragile, bon, elle peut disparaître demain, elle peut disparaître dans un champignon atomique ou encore de mille et une autres façons. J'ai vu quand même ce qu'était la guerre, les guerres.
Et la guerre en Russie maintenant ?
Les guerres en Russie, et là, je ne suis pas allé voir. Eh bien, cette fragilité, si vous voulez, elle nous impose de vouloir le bonheur, l'optimisme, la philie, aimer plutôt que la phobie. Mettre la philie devant la phobie, où que ce soit, et même pour le malheureux qui est en train de souffrir.
Merci beaucoup, Georges Niva. Je vous ai demandé si vous pourriez nous lire un quatrain de votre choix en langue russe. Je laisse donc nos auditeurs et nos auditrices à cette lecture.
C'est le premier poème de l'appendice en vers du roman Le docteur Jivago de Boris Pasternak. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоски, что случится на моем веку.
Merci beaucoup, Georges. C'était le poème Hamlet de Boris Pasternak à la fin du Docteur Jivago. Et c'était À voix nue avec Georges Niva, à la réalisation Nathalie Battus, prise de son Corentin Bailly, chargé de programme À voix nue Daphné Abgral, une série d'Ulysse Manès, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.